bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Bonjour et bienvenue dans la bande originale. Pendant cette semaine de vacances, nous vous proposons une sélection 100% bonne vibration en compagnie de la bande, bien sûr, au grand complet. Aujourd'hui, nous allons parler théâtre, immobilier, ciné, télé et même bande dessinée avec Stéphane Plaza.
Bravo
Stéphane !
Bienvenue. Bonjour. Stéphane, bienvenue. Non, ce n'est pas l'animateur de télévision. Non, ce
ah bah
n'est
si,
pas non, ce n'est pas le comédien au théâtre. Non, ce n'est pas le comédien au cinéma. C'est le héros. C'est assez rare quand même pour le préciser, parce que vous êtes ni l'auteur ni le dessinateur, vous êtes le héros d'une bande dessinée.
Oui. Oui.
Comment vous la racontez?
Non, c'est dingue. Non, c'est-à-dire j'envoie l'impulsion, j'envoie l'idée, et après je laisse travailler les bons éléments.
C'est ça, ceux qui savent.
Ceux qui savent faire.
Ça s'appelle un emploi fictif.
Ça, c'est avec Pénélope, ça c'est autre chose.
Ça s'appelle l'amour est dans le prêt, voilà. Prêt immobilier, n'est-ce pas, et non pas le prêt...
Non. C'est un hommage à ma grande copine Karine Le Marchand, parce que c'est elle qui ouvre la bande dessinée.
Qui est présente. Exactement.
Voilà.
On va en parler dans quelques instants. Dorache et Quaco sont les auteurs de cette bande dessinée publiée aux éditions Jungle et en présence d'Albert. On va évidemment analyser un tout petit peu cet art de la bande dessinée qui est le 8e. C'est ça?
Oui, c'est ça.
On appelle ça le 8e art.
Tu réponds monsieur quand tu poses une question.
Mais d'abord, l'interro sur je complète dans la tête.
Non,
mais
on dirait que t'avais peur que j'ai.
Et pas de piège.
C'est vrai que tu fais peur des fois.
Souvent même. Pour gérer de ces nombreuses équipes, je parle d'équipes dans le domaine immobilier.
Vous avez bien compris, hein.
Quelle savante ou scientifique technique de management utilise Stéphane Plaza? Tu ne dis rien, Stéphane.
Il les frappe. Les bonbons, les gâteaux.
Non, il les frappe.
Mais non, une technique pour les engager.
Incentive.
Justement, des bons coups.
Mais non. Il leur fait passer un test, il leur demande de procéder à une vente devant lui, il lui fait le client.
Non, il se base sur...
Le sourire.
Et non.
Le comportement corporel.
Non plus, non, c'est une science. C'est une science ou une croyance.
La calinothérapie.
L'astrologie.
L'astrologie, exactement.
Alors vous recrutez quel signe?
Non, mais ça dépend. Je regarde ce qui se passe dans mon agence et j'analyse, c'est vrai, les signes, parce qu'il y a des caractères qui sont un peu plus poussés. Et je fais passer aussi un test de 20 questions pour voir un petit peu où ça se situe. Est-ce qu'ils vont être impulsifs? Est-ce qu'ils vont être, selon les signes, est-ce qu'ils vont avoir mauvais caractère? Est-ce qu'ils vont être de mauvaise foi? J'analyse un peu tout ça. En tout cas, ça me donne des idées.
Il faut aller loin. Il faut aller très très loin. Jusqu'au test des Marines.
Oui, c'est ça. Ça, c'est pour tous les. Oui, c'est vrai. C'est 20 questions qui sont très très rapides.
Mais comme quoi, faites-les-nous passer.
C'est-à-dire quelle couleur est le ciel, etc. C'est
bleu.
Voilà, par exemple.
C'est pas le but, c'est des trucs difficiles.
Le but n'est pas d'avoir une bonne réponse. Le but d'être répondre très rapidement. Mais évidemment, c'est mieux d'avoir une bonne réponse que d'être con, parce que si on est con, on n'est pas engagé. Mais en tout cas, voilà, et on sait si vous êtes avec le stress impulsif, si vous êtes indépendant, et ça me donne une logique. Et il y a des très bons agents immobiliers qui sont trop indépendants et qui peuvent pas rentrer dans mon réseau.
D'accord.
Donc c'est pour être en havre de paix dans ce réseau.
Ok. Et les signes du zodiaque, l'astrologie, c'est pas pareil.
L'astrologie, selon les chiffres et aussi le signe.
Vous pouvez pas dire dans une agence, faut forcément qu'il y ait un cancer, un taureau, un scorpion.
Non, je ne dis rien, mais forcément sur un CV, j'ai quand même la date de naissance. Donc sur cette date de naissance, oui, ça dépend pourquoi. Mais le scorpion est très déterminé.
Ah, merci.
Et donc, ça dépend de l'horaire de naissance et tout, non? Comment on peut savoir?
Ça c'est l'ascendant
qui vient après.
C'est moins important.
C'est moins
après 30 ans.
Après 30 ans.
Mais je prends que des jeunes.
Ok.
L'ascendant, c'est pour devenir cadre.
Et ça veut donc dire que vous êtes influencé, pardon, mais c'est quand même le résultat au moment de l'emploi.
Moi, je suis pas influencé parce que c'est pas moi qui fait passer les entretiens d'embauche. En fait, après ces tests-là, moi, je regarde et j'ai un entretien avec mon manager donc général et donc on discute et je lui demande si vraiment il a ressenti ça ou pas parce qu'on vous annonce des chiffres qui sont très bien. Pour être agent immobilier, il faut quand même faire du chiffre parce qu'ils sont souvent agents commerciaux. Et pour faire tourner la boutique, il faut quand même un minimum de chiffres. Et le chiffre, c'est bien, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus parce qu'on peut progresser, on peut être performant ou on peut être très bon et d'un seul coup très mauvais parce que rien peut. Je vais pas appeler les autres agences pour savoir s'ils font du chiffre.
Vous pouvez me balancer le test des Marines là, je voudrais faire passer à l'équipe.
Ouais, avec plaisir.
Je suis assez curieux de voir
Je vais vous le passer.
Des Marines. Des Marines. C'est
si,
ça.
Je vais le passer.
Non, s'il vous plaît.
Si, je vais le passer.
Et vous êtes Gémeaux, hein, si jamais.
Gémeaux ascendant Verseau.
Si on pose la question. Voilà. Lors d'une analyse de son ADN, Stéphane Plaza s'est aperçu qu'il avait des origines communes dans son arbre généalogique avec
la Chine, les Bogdanov,
l'Asie. Non, avec une personne.
Oh, Patrick Balkany.
Non, ce serait dangereux.
Émile Louis.
Non,
je n'aurais pas dit.
Avec un...
Il faut remonter loin.
Docteur Petiot.
Charlemagne.
Moins loin.
Ouais.
Louis XVI.
Exactement. Louis XVI.
C'est dans le regard. C'est dans le regard. Il y a quelque chose.
C'est dans la tête qui va rouler. Louis XVI.
Oui, alors c'est pas moi qui l'ai demandé. En fait, c'est M6 qui avait fait une émission et donc ils ont calculé ça. Et donc ils m'ont pas augmenté pourtant. Ils m'ont pas donné non plus. Ils m'ont pas donné le royaume d'M6. Mais en tout cas, il paraît qu'il y a de l'ADN dedans.
Dans votre généographie, c'est ça? Ils sont allés chercher dans vos gènes et remonter jusqu'à Marie-Antoinette et Louis XVI.
Oui, j'avais les deux. Alors j'espère que je vais pas finir comme Marie-Antoinette. Oui. Hein, mais
comment ça, Marie-Antoinette et Louis XVI, vous aviez les deux ascendants? C'est très bizarre.
Mais c'est les descendants.
Tu sais, c'est les descendants. Il y en a plusieurs. Ça descend.
Mais alors du côté de votre mère ou de votre père?
Du côté de ma mère.
D'accord.
Voilà.
Pourquoi Stéphane Plaza n'a pas pu être pompier alors qu'il le souhaitait?
Pyromane. Il est trop petit. Il savait pas faire la planche. Il n'arrivait pas pour la planche.
Regarde feu.
Il a peur physique. Du feu.
Et daltonien, les yeux, il prend le bleu pour le
Louis.
Rouge.
Il a un problème physique.
Oui.
Il a un pied plus court que l'autre.
Attention quand même. Hein.
Bah, c'est la taille.
Il est ambidextre.
Les épaules ou les.
C'est pas la taille qui compte, Agnès. Non.
Il est ambidextre. Et...
Le feu le fait vomir.
Non, mais quelque chose.
Le feu lui fait peur.
Quelque chose lui rend malade.
Il a de l'eczéma,
la course.
La fumée,
les poumons.
Il est allergique à l'eau.
Le matériel qu'on porte sur lui, le cuir.
Il est allergique au latex.
Les pompiers.
Il a le vertige. C'est une belle tentative, Agnès, mais c'est non.
J'adore. Il y avait un léger décalage de 2 secondes. Tu aurais été à Los Angeles, on aurait dit ok, on accorde
la bonne réponse.
Mais voilà, mais pas ici. Le vertige, même dans le monde de l'immobilier, quand vous faites des visites sur des, je sais pas, sur des appartements sur le toit, ça doit être gênant.
Oui, c'est un peu gênant. J'envoie les autres visiter les toits. Moi, je visite les caves, les rez-de-chaussée. Non, j'ai le vertige quand je m'approche très, très, très près, ou même dans les hôtels là où on voit vraiment les choses. Oui, je me sens
c'est
pas rassuré.
C'est quoi les hôtels où on voit les choses? C'est
les grandes terrasses tout là-haut.
Ah, les baies vitrées.
Les baies vitrées. Je cherche.
Il vous manque de vocabulaire pour un agent immobilier. Faites attention, baies vitrées,
c'est quand même dommage.
Ça, c'est typique des Gémeaux, ça.
Ouais, les Gémeaux sont en l'air, c'est des signes en haut.
Est-ce que ça se soigne, ça, le vertige?
Je crois pas. On
maîtrise d'oreille interne.
Ah, peut-être. Ouais, en tout cas, moi, j'essaie de maîtriser la peur, mais bon, ça va quand même. Hein. Je peux visiter du moment que je ne joue pas près de la baie vitrée.
À propos de jeu, justement, au théâtre, qu'a fait Stéphane Plaza sur scène pour la dernière représentation du Fusible?
Non, il avait fait quelque chose à son partenaire pour le déstabiliser, c'est bien ça?
Arnaud Gidoin.
Il a vendu le théâtre.
Il avait mis du vrai alcool dans les accessoires.
C'était encore pire que ça. Par rapport à une scène de nu ou un truc comme ça, il n'y avait pas ça?
Exactement.
Il a enlevé les habits?
Ouais. Vous êtes mis totalement nu.
Oui, mais il voulait voir mon corps depuis longtemps. Et je me suis dit bon.
Allez, il voulait le voir ou vous vouliez le montrer?
Peut-être les deux. Sans doute que je voulais lui montrer. Mais en tout cas, oui, ils étaient un peu tristes pour la dernière et tout ça. Donc je me suis dit, il faut un truc complètement fou. Parce que les dernières, c'est souvent un peu dur quand ça a bien marché. Donc le truc complètement fou, j'ai été peut-être un peu trop loin. Je suis arrivé tout nu.
Dès le début.
Non, à la fin quand même. À la fin. Oui, sur scène, devant le téléspectateur aussi. Eh bien, ils ont été contents aussi.
Vous appelez ça un téléspectateur dans le.
Oui, ou un spectateur.
Une déformation.
Ouais, c'est
une déformation, mais en tout cas, ils étaient très contents.
Non, mais ça va pas.
Oh, si, ils m'en redemandaient, ils me disaient une autre.
Ah oui, pas celle-là. Oui.
Fais plus grand.
Belle pièce.
Qu'est-ce qui il manque la batterie là. Qu'est-ce qui risque d'arriver à Stéphane Plaza en 2019?
Il va devenir papa?
Non.
La lune.
Je sais pas. Pourquoi pas?
C'est une proposition?
Non, une nouvelle émission.
On va discuter. 2019.
Ça se négocie.
C'est pas professionnel.
Il va être cambriolé.
Un alignement des planètes.
C'est lié à l'âge.
Il va changer de carrière.
C'est lié à Mercure.
C'est lié à une prévision. C'est lié à une prévision.
Il va prendre sa retraite.
Une sorte
cheveux.
De.
Il va tout millionnaire. Arrêter pour devenir juste comédien, reprendre que la scène.
C'est une sorte de retraite, c'est une sorte d'arrêter.
Il va quitter Paris.
Il va devenir
végétarien.
Non.
Il va plus porter d'habits, jamais.
Alors,
ça, j'aimerais bien.
En effet, il aura plus besoin de vêtements.
Il va s'installer au bord de la mer.
Il fera vœu de chasteté.
Ah non. Non, 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 non
Non, on peut pas.
Regarde ses yeux. Regarde ses yeux.
Alors, fais un effort.
C'est une prédiction. C'est une prédiction qu'on lui a faite.
Ouais, mais alors.
2019. Non, mais je dis, c'est un peu, c'est une manière de s'arrêter. Plus besoin de vêtements.
Un truc joyeux ou triste?
Triste.
Il va mourir.
Exactement.
Mais non. Mais c'est horrible.
Oui, bah merci de me le redire. Non, mais c'est une voyante. Elle m'a dit, à 49 ans, vous allez casser votre pipe, monsieur Plaza. Alors, je pense qu'elle voulait dire, enfin, c'est comme ça que je me rassure, moi, hein, que j'allais changer de métier, changer de vie.
Alors, d'après une voyante, je suis mort depuis mes 35 ans.
Ah, ça, alors ça me fait plaisir. Enfin, non. Mais... ça me rassure moi-même.
Je me disais que dans le studio, ça sentait fort.
Non, mais c'est quand même bizarre.
Mais d'après ce que l'on me dit, c'est voyantes qui prédisent les décès. D'abord, c'est pas conforme à la législation des voyantes.
Oui, alors je savais pas qu'il y avait une
conformité. Faut pas se fier. Non, mais voilà. Non,
c'est pas crédible. Ouais.
C'est pas crédible.
C'est pas conforme à l'escroquerie, ce qu'est la voyance.
Est-ce que ça vous a fait peur quand elle vous a dit ça?
Bah bien sûr. Non, ça fait flipper quand on.
Donc vous y croyez, en fait.
Moi j'y crois. D'ailleurs, je ne consulte plus maintenant. Maintenant,
tellement vous y croyez.
Oui, je me dis bon bah ça suffit les conneries.
Non, faut aller voir quelqu'un d'autre.
Faut aller voir un toubib. S'il y a quelque chose.
Non, non, tout va bien parce que j'ai des tests. Non, mais je pense que c'est un changement de vie. C'est un autre karma qui va se.
Non, moi je pense que vous allez mourir. Et qui...
Bon, bah alors je vais faire mon testament. Je vais sortir direct et aller chez les notaires.
Et qui pourrait être quoi alors ce nouveau karma, ce changement de vie, ça pourrait être quoi?
Comédien.
Bah peut-être.
Non, comédien, c'est fait.
Oui, mais peut-être.
Plein temps.
À plein temps.
Peut-être à plein temps. Peut-être. Peut-être papa. Pourquoi peut-être.
Tu vois, regarde, j'avais un peu raison.
Voilà, peut-être un changement de vie complète.
Un chat.
Voilà, peut-être un. J'ai déjà une chatte. Hydra.
Ben, voilà.
Donc peut-être autre chose. Je sais pas. Ou partir à l'étranger.
Non, mais je vous vois pas abandonner ce que vous avez mis autant de temps à construire en termes de.
C'est beau, ça. Je peux déléguer
non,
un peu.
Ça. Non, mais vous avez quoi, 3 carrières. Présentateur, comédien et agent immobilier, ces 3 carrières-là.
Vous avez un empire.
C'est peut-être quelqu'un qui va me flinguer finalement.
Vous avez mis beaucoup de temps. Non, mais vous avez mis beaucoup de temps à les construire. Elles sont toutes fragiles parce qu'elles reposent sur soit l'état du marché immobilier, soit l'état de l'audimat ou du choix de la pièce. Est-ce que ce qui n'est pas une contrepétrie d'ailleurs, est-ce que le public a envie de vous applaudir ou pas? Non, mais c'est super délicat. De dire je laisse tomber, j'abandonne.
J'ai pas dit ça, c'est que dans mon esprit, je me dis c'est pas possible, elle est con cette voyante quand même.
Oui,
tu vois. Donc il faut quand même que je me rassure, mais j'y pense plus trop, sauf à aujourd'hui maintenant où on m'a remis cette idée en tête.
Fais-moi
mais...
le faro. Hein.
Je vous fais les tarots à la pause, vous allez voir.
Ah super.
Tu fais ça toi?
Non, pas du tout. Ah, bon, bah, alors, non, mais là, je peux pas lui dire pire en fait.
Non,
que,
c'est vrai.
Alors, mais on va dire positivons.
Positivons.
Oui, que prévoit de faire Stéphane Plaza pour ses 50 ans, c'est-à-dire pour 2020?
Ressuscité.
Une grosse fête. Partir avec tous ses copains. Partir avec tous ses copains en vacances.
Tout arrêter.
Un enfant.
Non.
50 ans.
Tout continuer.
Un grand voyage.
C'est 2020. Il est question de voyage, ça se passera pas à Paris.
En Asie. Non. Emmener tous ses amis quelque part sur les jetis.
Ça coûte cher, ça.
Non. Radin. Quel radin.
Partir vivre sur un bateau.
Partir faire une retraite quelque temps. Partir vivre dans un pays
durablement. C'est dans un autre pays, oui.
Bah, aller commencer par trouver quelqu'un. Lequel.
Aux États-Unis.
Oui. Quoi faire là-bas? Quelle ville?
Non, je vais pas remplacer.
New York.
Oui, quoi faire New York.
Comédie musicale.
Non.
Je vais pas remplacer. Comédie pas musicale.
Agent immobilier.
Vendre la Trump Tower.
Non, très connu là-bas.
Qu'est-ce maire de New York.
Monter en haut de l'Empire State Building.
Non, c'est un rendez-vous annuel là-bas.
Oh là 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 là.
Ah, le marathon.
Times Square.
Oui.
Je vais dire la Gay Pride, moi. Je sais pas.
Mais et tu me regardes comme ça quand tu dis ça. Je sais pas
mais
comment on doit le prendre.
Parce que moi j'adorerais.
Tu viens de me parler d'enfant et puis après tu me dis la Gay Pride.
C'est pas exclu.
Je pas l'autre. C'est vrai.
On peut être ouvert, monsieur.
Oui, c'est vrai. Soyons ouverts.
Ça, on avait bien compris.
Et vous rêvez de le courir avec Ariel Le Marchand.
Normalement, c'est prévu. On part ensemble à New York faire le marathon.
Mais vous courez déjà
un
semi?
Pas du tout. Non, j'ai fait un 20 km. J'ai fait un 20 km.
Alors, on est pas du semi, ça va. Voilà.
Ouais, je l'ai fait une fois à Paris. Donc, c'est-à-dire, j'ai fait le 20 km de Paris. Je suis arrivé donc après Karine. C'est-à-dire que même au départ, le dossard était perdu. Donc, j'ai dû partir après. Elle était déjà douchée quand moi, je suis même pas arrivé. Au bout de 3h03, je crois que j'ai mis 3 mois à m'en remettre pour pouvoir marcher. Mais je me suis dit à 50 ans, c'est le moment de faire avec un entraînement. Le marathon de New York.
Surtout, soyez prudent.
Oui, bah, je vais être prudent.
Ah ouais, c'est pas mourir en 2019.
Ah, c'est peut-être mort, ça la prédiction.
Ah oui, 2019.
C'est un arrêt cardiaque.
Non, c'est 2020. C'est 2020.
Oh mais si, c'est ça, voilà.
Oh non, je vais partir avec un médecin.
Faut pas y aller.
Si, je vais y aller. Avec l'enfoiré. Très entraîné.
C'est une émission accueillante.
Oui.
On annonce que Stéphane Plaza veut parcourir le marathon de New York en 2020 et qu'il va mourir lors de l'entraînement 2019.
C'est lié à ce que il fallait pas évoquer la voyance.
Non, mais finalement, vaut mieux aller à la Gay Pride. Hein.
Oui, ouais, finalement, je ferai le marathon de la Gay Pride.
Ça se tient.
Il y a des arrêts cardiaques. Hein.
Et là aussi, il faut de l'entraînement.
Il y a eu une première bande dessinée qui s'appelait Suivez-moi, c'est par là.
Oui.
C'est ça. Qui a été un succès. C'était déjà Dorache et Coco, qui ont la même bande. D'ailleurs, comment définir, puisque parlons déjà de cette forme de bande dessinée. On s'approche un peu du monde de Spirou, on s'approche des...
C'est un peu le trait de Spirou d'aujourd'hui. Je dirais pas le trait de Spirou de Franquin. Voilà.
Je parle du dessin. Hein.
Oui, du dessin.
Uniquement
oui.
du dessin.
Oui, oui.
D'accord. Et la structure, elle est celle de non pas raconter une histoire en 50 pages, mais plutôt de faire des sketchs, de faire des pages, de faire des tableaux. Ouais, c'est ça.
Ouais, très rapide. Il faut être très très rapide, avoir une idée et terminer très très vite, parce que évidemment, il y a très peu de dialogue et donc c'est aussi visuel. Et surtout, il faut raconter un truc et avoir en tout cas essayer d'avoir l'humour ou de décocher un sourire à chaque page.
Ouais. Donc c'est du sketch. Quoi, ouais. C'est ça.
C'est du sketch, ouais. C'est comme de l'impro très très rapide de 20 secondes ou 30 secondes pour un comédien. Sauf que là, ça se passe sur des bandes dessinées. Donc évidemment, c'est pour ça que je donne l'impulsion, parce qu'il faut que ça soit réel, parce que ça se passe dans une agence. Enfin, en tout cas, c'est la vie d'un agent immobilier, c'est plutôt la mienne. Et donc, j'ai toujours donné le truc. Et des fois, on va un peu plus loin, parce que c'est le tome 2, on a pu aller un peu plus loin dans le comique, un peu plus excentré.
Comment vous mêlez, entre guillemets, à écriture, c'est-à-dire vous dites j'aime pas cette blague.
C'est-à-dire que en fait là il y a 44 pages, donc je dis voilà pour moi je vois une première page comme ça, une deuxième page et j'aimerais bien que Carine Le Marchand arrive, j'aimerais bien parler du jogging de Carine Le Marchand et voilà, j'aimerais bien aller sur les agriculteurs. Et
donc
après,
c'est vous qui structurez, qui donnez des pistes. Je donne l'impulsion.
D'accord. Après il m'envoie, après je dis bon bah écoute là ça va pas assez loin, moi ça me fait pas rire ou c'est pas trop décalé. Et après j'ai pris une autre personne beaucoup plus jeune parce que voilà moi j'ai 48, je voulais travailler avec une autre personne, une jeune femme plus jeune, pour voir si on a l'humour et que ça soit pas trop déplacé non plus. Aujourd'hui, il faut faire très attention. Et donc on regarde et on dit, voilà, on discute. Et soit je garde, soit je garde pas, ou je leur demande d'aller plus loin.
Qu'est-ce qui vous fait rire, vous, dans les bandes dessinées? C'est-à-dire que j'imagine que quand on accepte d'être un héros d'une bande dessinée, on a des références. Vous avez grandi en lisant quoi?
Tintin et évidemment Gaston Lagaffe. On n'est pas très loin déjà, moi, en temps normal. Je suis un croisement entre Mr Bean et Gaston Lagaffe.
Pierre-Richard.
Ça, c'est dans la vie normale.
Dans la vie normale. Donc, évidemment, la bande dessinée, j'ai beaucoup lu Gaston Lagaffe quand j'étais jeune. Et le personnage n'est pas très, très loin, je pense. Sauf que c'est la vie, voilà, ça reste ma vie immobilière et c'est normalement l'impulsion qui est donnée et part d'une histoire vraie.
Ouais, et le but c'est aussi de mieux comprendre le monde de l'immobilier parce qu'il y a tout un tas de termes bien spécifiques qui sont au-delà de la blague, qui sont quand même expliqués.
Exactement, voilà. Si on peut avoir une info, un petit conseil, etc. Et après, évidemment, je joue aussi sur mes gimmicks favoris qui sont double vasque, net vendeur. Je parle de mon papa qui fait du vélo et où est ma passion, etc. Et mon côté maladroit.
Il faut expliquer double vasque parce que ça, c'est une vanne
de l'émission.
Oui, c'est-à-dire que
c'est pas une expression d'agent immobilier.
Non, ça c'est un truc. En fait, je faisais chasseur d'appartement et on me dit, bah voilà, c'est sur fond vert, chasseur d'appartement. Et on me dit, allez, sois drôle. Et donc, je vois une double vasque et donc, j'ai dit, bah tiens, je vais gueuler double vasque. Et on m'a demandé après d'arrêter. Et évidemment, j'ai un esprit de contradiction, donc je leur ai dit, non seulement je ne vais pas arrêter, maintenant je tombe de ma chaise, mais sans matelas. Et donc c'est devenu, et dans la rue, on m'arrête, les enfants et tout ça, ils m'appellent double vasque, et puis Stéphane Plaza. Et donc j'ai gardé ce truc, à chaque fois dans le salba qu'il y a une double vasque. Voilà. Et parce que pourquoi? Parce que ça me fait rire, la double vasque, parce qu'on dit c'est plus pratique. Oui, c'est plus pratique parce que donc l'homme va d'un côté, ou les deux hommes, ou les deux femmes, ou le couple, mais c'est toujours la même personne qui nettoie la double vasque. Donc c'est deux fois plus de boulot, en fait. Il y a une double vasque, mais c'est toujours la même personne qui nettoie. Donc elle ne sert à rien, cette double vasque. Non, mais c'est vrai.
Le choix de partir et de rester dans le monde de l'immobilier, c'est vous dites, parce que vous pourriez dire aussi, je suis comédien, je peux avoir différentes casquettes, être dans différents univers et profiter du monde de la bande dessinée pour devenir même un super-héros. Enfin, je veux dire, vous pourriez être dans des hélicoptères, dans des fusées, dans des bateaux. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours dans une agence immobilière.
En tout cas, moi, mon ADN, c'est être agent immobilier. C'est ce qui me met les pieds sur terre et c'est ce que j'aime plus que tout au monde. Après, voilà, j'ai plusieurs cordes à mon arc et j'essaye de les utiliser, en tout cas de profiter de la vie et d'être épicurien. Et en tout cas, je fais toutes les choses à fond. C'est pour ça que cette BD, j'ai voulu vraiment m'investir et j'ai pas voulu donner juste mon nom qu'il y ait marqué Stéphane Plaza, que ça soit commercial et qu'on se dise tiens, on va acheter Stéphane Plaza. Donc forcément,
de vos trois métiers ou quatre avec celui de maintenant de héros de bande dessinée, le seul que vous ne pourriez pas lâcher, c'est l'agence immobilière.
Je pense que oui, tout à fait, c'est sûr à 100%.
Et pourquoi ?
Ben parce que je pense que je suis né pour l'immobilier, je rencontre des gens différents.
Enfin, quand vous êtes sur scène au théâtre, vous ne posez pas la question ?
Sur scène, je prends du plaisir, mais sur scène, bien sûr, si elle marche, c'est fantastique de jouer au théâtre, mais il y a aussi des pièces qui ne fonctionnent pas, il faut gérer beaucoup.
Mais vous n'êtes pas auteur, vous êtes interprète.
Interprète, quand il n'y a personne dans la salle, c'est quand même un peu embêtant. Ouais. Et puis après, il faut aussi gérer certains égos, alors qu'agent immobilier, je rencontre tout le monde. Je rencontre des comédiens, je rencontre des étudiants, je loue à tout le monde. Et j'ai un vrai contact avec la vie. Et en plus, je connais par cœur ce métier et ça me fait kiffer. Voilà.
Non, mais c'est fou comme ça de se dire, je ne pourrais jamais lâcher ça.
Je le délègue. Mais en tout cas, ça me plaît.
Ça représente beaucoup de votre temps aujourd'hui, toujours.
J'ai la chance de faire mes primes ou mes émissions de télé, donc ça reste sur l'immobilier. Donc, et je recherche sur Paris, je visite moi-même les appartements, même si on m'aide beaucoup et que j'ai appris à déléguer.
Oui, parce que le défaut, oui, vous déléguez, sauf que les clients qui viennent dans une enseigne Plaza aimeraient avoir affaire à vous et pas à quelqu'un qui vous représente.
Oh, ça dépend desquels, mais en tout cas, on retrouve 20%.
Des sosies peut-être.
Il y a des sosies, j'ai des clones dans chaque agence qu'on sort à midi. Mais en tout cas, on retrouve 20% de Stéphane Plaza dans toutes les agences. Il y a une formation qui est différente, les agences sont différentes et il y a un contact, j'espère, différent.
Père Albert, cette bande dessinée.
Comment elle est alors ?
Alors, elle vous a plu ?
Eh bien, écoutez, mon cher Nangui, cette BD ne peut que rencontrer le succès quand on connaît la personnalité éminemment sympathique de Stéphane Plaza. Coucou Stéphane. Sympathie qui ne peut qu'inciter, donc, vous l'aviez dit, à découvrir Stéphane sous un aspect, ma foi, inattendu. Non pas Stéphane astrologue, non pas Stéphane marathonien, mais Stéphane héros de bande dessinée. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, vous l'avez dit, Nangui, de son vivant.
Quel privilège.
Tant que ce vivant dure. Pour ma part, j'ai été sensible au calembour qui, à l'image du titre, L'amour est dans le pré, avec un accent circonflexe, c'est calembour qui fuse et ponctue cet album, par exemple page 10, l'enseigne de ce magasin de sanitaire, où l'on découvre les vasques haut de gamme, où cette exclamation... Ça t'embouche un groin, page 10. Ou encore, page 15, un inédit chauffe qui peut. Bref, vous pourriez croire, vous tous et vous toutes qui me faites la charité de m'écouter, que c'est la passion de l'humour ou le copinage qui prévaut dans le choix de nos invités à la bande originale. Eh bien, détrompez-vous! Ça ne se passe pas comme ça. La preuve, à 11h05, juste après les infos, quand JNB, le rédacteur chef, vous a dit, Nagui, que Stéphane Plaza était notre invité.
Ah bon?
Vous vous êtes écrié. Stéphane Plaza! Je hais les agents immobiliers. Tiens, une devinette. Quand est-ce qu'on peut voir qu'un agent immobilier est un menteur ? Non, mais je ne sais pas. Eh bien, quand il bouge les lèvres. Vous devriez faire humoriste dans la bande originale. Ça relèverait le niveau. Tais-toi et trouve-moi un autre invité. C'est trop tard. Mais vous savez, dans son album, Stéphane Plaza vous cite page 12 en compagnie de Hanouna, Arthur, Nikos, Jackie et Michel.
C'est vrai.
Ah, ça change tout. S'il me cite avec mes potes, passe-moi ta fiche. Voilà, cher Stéphane Plaza, comment se prépare la bande originale. Dans le narcissisme le plus exacerbé, les retournements de veste et l'apologie de la pornographie. Bonne émission malgré tout.
Merci.
La bande originale, lundi sur France Inter.
C'est vrai, absolument. J'ai le privilège d'être cité dans la bande dessinée. Mes avocats d'ailleurs s'occupent de ce problème et contacteront directement les éditions.
Et dans de drôles de positions, on peut le préciser.
Non, ce sont des animaux dans une ferme. Oui, ils font ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'il y a?
Et les ânes au milieu, c'est quoi?
N'importe quoi.
Ce sont des amis.
C'est des amis.
Mais t'es totalement...
Vous pouvez lire la légende?
Mais tout va bien.
Il n'y a rien. Nikos, Les, Vianney et Louane, Nagui, Taratata.
Et la suite?
Michel monte pas sur Jackie.
Voilà.
Mais c'est pas non plus...
Oui, c'est pour Michel et Jackie.
Non, mais Nagui est dans cette scène, néanmoins.
Il est en périphérie.
Il observe.
C'est une nouvelle position.
Merci, merci.
J'ose pas encore participer.
Voilà. Ça c'est fait.
Et voilà. Bon ben j'ai un procès, merci.
Il faut créer le buzz. Ouais,
j'ai vu, j'ai vu.
Il faut créer le buzz. Stéphane Plaza, profession agent immobilier, l'amour est dans le pré avec un petit chapeau sur le E aux éditions Jungle. C'est signé Dorache et Quaco. Voici Marina Rollman.
Ah, voilà.
Tu es belle avec ta nouvelle coiffure.
Merci beaucoup, ouais.
Ça te va très bien.
Mais non, c'est rien. Alors, merci. Rien à voir. Je viens de rencontrer la fille d'une de mes amies. Voilà, j'ai une amie qui vient d'accoucher. Elle a appelé sa fille Léa. Voilà, c'est très joli. Mais je me suis dit, ce serait quand même bien un jour, à titre personnel, d'être très très connue. Parce que moi, si un jour j'ai des gamins et que je suis connue, ça veut dire que j'aurai le droit de ruiner leur existence en inventant des prénoms dégueulasses.
C'est vrai.
Et ça, t'as pas le droit de faire avant d'avoir fait, tu vois, la couve de Vanity Fair. Parce que c'est vrai, les gens normaux, qu'est-ce que t'es tenu à des petits prénoms courts comme ça, Léa, Ava, Théo, Enzo. Bon, pourquoi pas. Mais les stars, ils ont le droit d'inventer. Moi, je trouve ça très excitant. Alors, il y a un niveau intermédiaire, c'est le Marais. Moi, j'ai emménagé récemment. Là, les gens, ils commencent un peu à déconner avec les prénoms de leurs enfants. Hein. Tu sens déjà que les lois s'appliquent moins. Moi, je vois dans la rue des dames très chics dans le Marais qui sont là avec des triplés. Comme Jacobin, Flétan, on y va.
Flétan,
ça m'excite. Mais le mieux, ça reste les gens connus. Le stade au-dessus, ils sont fous, ils inventent. Angelina Jolie, elle a sa portée. Je sais pas combien elle a d'enfants. 21, 60, un bus scolaire, peu importe. Et les prénoms, c'est un concours. À chaque fois, elle invente un truc. Il y a des gamins qui s'appellent Maddox, Vivienne Marcheline, Nouvelle. Et personne ne réagit. Moi, ça me va, Angelina, mais enfin, il faut qu'ils réalisent, ces gens, qu'ils ont une responsabilité par rapport à nous. Ah bah parce qu'on le sait aujourd'hui qu'à cause d'Angelina Jolie, il y a des gamines qui s'appellent Chilo Nouvelle dans le Jura, qui n'ont pas du tout le destin. Mon préféré, c'est Bruce Willis, il a trois filles. Il y en a une qu'il a appelée Rummer, ce qui est à peu de choses près un nom de voiture, voilà. Talou Labelle. Là, tu sens, il commence à pointer des mots au hasard dans le dictionnaire. Hein. À deux pages près, elle aurait pu s'appeler Talou Labelette. Et enfin, la dernière, elle s'appelle Scoot Larue.
Oh mince.
Scoot la rue Willis. Mais c'est une phrase en québécois, Bruce. Qu'est-ce que tu fais, enfin, je veux dire.
C'est dur, ça.
Mais en plus, surtout, quel niveau de mégalo. C'est-à-dire, c'est pas assez unique, déjà, d'être le gamin de Demi Moore et Bruce Willis. Ta mère, elle a fait de la poterie érotique avec des fantômes. Ton père, il s'est tapé Mila Jovovich. Est-ce qu'en plus, vraiment, t'as besoin qu'on invente une phrase entière pour te nommer? Tu vois, c'est pas comme si elle avait passé inaperçue. En même temps, je me moque, mais je sais pas ce que ça fait d'être connu. Peut-être que tu deviens fou quand t'es connu, je sais pas. Moi, je suis pas connu, mais si un jour j'y arrive, peut-être dans 10 ans, vous me retrouverez en une de gala. La photo, c'est moi, au lit avec deux bébés. Et le titre, c'est genre, le bonheur avec ses jumeaux, Aquaman et de Saint-Ouen.
C'est bon ça.
Je suis là, je suis maquillée au lit comme ça. Il y a un grand bouquet de lys blanc à côté du lit qui trempe dans de l'évian. Sur le lit, il y a des petits chiens blancs. Tous les tissus sont à base d'animaux en voie de disparition. Au fond de la chambre, il y a une fenêtre à travers laquelle on devine un parc qui m'appartient probablement, dans lequel il y a des paons en liberté. Et le sous-titre de l'article, c'est un truc genre elle nous reçoit chez elle en toute simplicité. Le truc de dire que t'es simple, ça c'est une marque que t'es arrivée en termes de notoriété, c'est quand on remarque à quel point tu es simple. Moi, les gens, les gens, ils me voient arriver, ils sont là, bah oui, encore. Qu'elle fasse pas chier cette colasse, tu vois. Mais c'est ennuyeux, je trouve, cette idée de vouloir ramener les gens connus à être monsieur tout le monde, parce que ça manque de glamour aujourd'hui, la notoriété. Ils sont comme nous, mais à quoi ça sert? L'autre jour, j'entendais une interview de Paul McCartney, et le journaliste, il était là. Alors, monsieur McCartney, il paraît que vous prenez le bus? Et McCartney, il dit oui. Et le journaliste, il dit pourquoi? Et McCartney, il dit bah, j'aime bien. Mais moi aussi, j'aime bien prendre le bus, enfin. Mais il faut qu'on le réveille, enfin, Paul. Moi, j'ai envie de t'imaginer en train de prendre du LSD sur les sourcils de Jimi Hendrix. J'ai pas envie de savoir qu'aujourd'hui, ton kiff, c'est la RATP. C'est hyper triste, enfin. Tu changes le cours de l'histoire de la musique, après, tu chilles dans le 72, comme ça. C'est très triste. Alors, on arrête maintenant, les stars, de vouloir être comme monsieur tout le monde. On se reprend. Et moi, promis, si un jour je deviens une star, j'oublierai pas d'où je viens et je vous enverrai les faire part pour les naissances de Panama Papers, Nagasaki et Téléphérique.
La bande originale. Voici Lou Doyon dans la bande originale de votre journée avec Burn. Once again, it shakes, it stirs you. I'm getting close enough to feel the heat. And I know just what you're going to say. Get as far as you can, make a U-turn, baby. But when I'm up close, it's too late to turn back. Oh, just like a book, I'm attracted to the late. I'm attracted to the late. I'm attracted to the burn. Back on my tiptoes, oh, watch me shoot it. Oh,
by my own will. I'm heading for the fight. No matter where I start, I know very well where the sun's. But when I'm up close, it's too late to turn back. Well, just like a book, I'm attracted to the late. I'm attracted to the late. I'm attracted to the burn. It's too late to turn back. Well, just like a book, I'm attracted to the late. I'm attracted to the late. I'm attracted to the burn.
C'était Burn de Loudoyon dans la bande originale. Nous sommes toujours avec l'agent immobilier le plus célèbre de France jusqu'à midi et demi, Stéphane Plaza. Question simple d'ailleurs pour vous. Est-ce que tout peut se vendre?
Tout est vendable, tout est vendable.
C'est une question de prix?
C'est une question de prix. Ça dépend comment c'est estimé. Tout n'est pas vendable si c'est trop cher. Par exemple, moi, je ne prends pas ce bien. Si tout est explicable, en tout cas, et tout peut se vendre. Mmh. Après, tout dépend si on est là pour dire la vérité, pour être transparent.
Est-ce que Paris est l'une des places les plus chères en termes d'immobilier au monde?
C'est pas la plus chère au monde, non.
C'est Londres ou New York?
Londres et New York, depuis que Donald Trump est revenu. Je crois que New York a tout explosé, il me semble. En tout cas, Londres est beaucoup plus cher que Paris. Et en plus, sur Londres, c'est des baux qui se terminent. Donc, on n'achète pas à vie. Donc,
on n'est pas propriétaire.
99
ans. 99
ans. Ouais,
voilà. Donc, c'est compliqué. Enfin, oui.
Je croyais que les Anglais étaient au contraire très.
Nagui vient de se rendre compte qu'il s'est fait avoir sur une opération.
Il fallait passer par moi.
Ce château que vous avez acheté avec la vieille dame en bleu. 99 ans, faut le rendre, Nagui.
Je croyais que les Anglais étaient très propriétaires, justement.
Ben, ils ont cette volonté très propriétaire, mais ils achètent que des baux, donc c'est compliqué. Ça dépend quand est-ce qu'on arrive, mais c'est beaucoup plus cher que Paris. Mais en France aussi, on a ces baux-là, ça dépend des régions. Ouais. Mais c'est très très rare, et en tout cas, mais c'est alors, pas dans notre culture.
Nous, acheter, c'est dans notre culture, en revanche. Voilà. Nous, on aime acheter.
Nous, on aime être propriétaire. Ouais. On rêve tous d'être propriétaire.
Non, mais les Anglais, ils ont...
Les Anglais n'ont pas Stéphane Plaza, ça suffit, Nagui.
Ils achètent en France, en Normandie, autour de Carcassonne. Non, mais ce que je veux dire par là,
par rapport à d'autres pays d'Europe, la culture n'est pas d'acheter.
Il y a des régions où les Anglais ont acheté plein de...
Non, mais tu parles des Anglais, mais moi je te parle aussi des peuples. Je te parle des Espagnols, des Portugais ou des Allemands, par exemple. Les Allemands sont rarement propriétaires du bien dans lequel ils vivent.
Dans leur principe. Ouais. Dans l'éducation, d'accord.
Les Anglais avaient beaucoup de maisons secondaires, c'est un peu revenu, hein, pour tout ce que Normandie, tout ça. Hein.
C'est revenu parce qu'ils ont été taxés. Enfin, l'Angleterre taxe les Anglais sur les maisons qu'ils ont à l'étranger. Donc c'est pour ça qu'ils sont revenus.
Il y a tous ceux qui peuvent pas acheter aussi.
Une partie famille anglaise. Je suis sûr de ce que je dis. Pour en revenir à ce que vous dites, si c'est trop cher, je ne prends pas.
En tout cas, Paris.
Non, mais à Paris, il doit bien y avoir des choses tellement dingue et extrêmement cher, où il y a toujours un émir ou un milliardaire qui débarque en disant moi ça m'intéresse.
Alors après, ça dépend. C'est-à-dire que quand c'est trop cher et que c'est très beau, peu importe, il n'y a pas de prix quand il y a des choses exceptionnelles. On ne peut pas toujours fixer un prix quand il y a des vues exceptionnelles.
C'est quoi un truc exceptionnel?
Une vue sur la Tour Eiffel, un rooftop magnifique avec pas de vis-à-vis à 360.
Le rooftop.
Parce que c'est les Russes qui achètent ça, tu comprends?
Non, mais c'est quoi ça?
Un rooftop.
Rooftop.
C'est prononciation du Gémeaux.
Ouais, du Gémeaux, tu sais, c'est mon anglais, c'est mon anglais. Les rustoches.
T'appelles ça un rustoche, toi?
Ouais, parce que c'est toujours les Russes qui achètent, pratiquement.
Ok, d'accord.
Mais en tout cas, voilà, donc il y a des choses qui sont exceptionnelles, et là, on a du mal à fixer un prix. En revanche, quand c'est quelque
chose... Alors, comment vous faites pour le vendre, si vous n'avez pas de prix?
Non, c'est-à-dire, on a un prix, mais on peut pas s'arrêter. Ça peut être 20, 25 000 euros près du mètre carré, 30 000, 40 000 euros. Tu vois,
Il paraît que la moyenne de l'immobilier à Paris, vous allez me confirmer ou pas, si je prends une feuille A4, ça vaut 500 euros. 500 euros cette feuille A4 là.
Je sais pas, mais je vais la garder.
Tu t'es fait avoir, c'est hyper cher.
Je vais la garder, je vais la garder.
Non, pour savoir que vaut un prix en moyenne un mètre carré à Paris.
De toute façon, 500 euros, c'est à peu près. De toute façon, Paris, c'est devenu très très cher, et depuis deux ans, tout a explosé vraiment.
Mais ça, c'est fait pourquoi? Pour vider la capitale, justement, pour qu'il y ait moins de.
En fait, il y a des acheteurs.
Il y a des bureaux. Il y a plus de bureaux que d'habitations maintenant.
C'est l'offre et la demande, et mais tout se vend à Paris depuis deux ans. Les prix augmentent encore, et même les quartiers qui étaient dits un peu difficiles et qui étaient à 6 000 euros prix du mètre carré sont passés à 8 000, donc c'est compliqué. Moins de 10 000 euros, on a du mal.
Est-ce qu'il y a des villes de province comme Bordeaux, Toulouse, Marseille qui rattrapent ce niveau-là?
En tout cas, Aix est très très cher, Nice est très très cher aussi. Paris n'est pas forcément la capitale plus chère.
C'est pour ça que j'en parle, oui. Ouais. Et il y a des villes à la mode où il y a des tendances, il y a des années où, je sais pas, je sais que quand le TGV est arrivé à Aix et à Marseille, l'immobilier a flambé parce que évidemment tout était à 3 heures à peine de Paris.
En fait, sur Marseille, il y a une grosse évolution et les prix sont partis très très haut, sauf que sur Marseille, c'est très compliqué, ça restait un port au début, et donc on a du mal à avoir une vraie estimation parce que tout est très cher, et on a dû, voilà, il a fallu redescendre un peu les prix. Parce qu'en fait, les maisons étaient faites de un peu de briques et de brocs au départ, et donc ils ont pris un ampleur pour la ville.
Il n'y a pas que des cabanons de pêcheurs.
Justement, mais tout a augmenté terriblement avec le TGV.
D'accord, voilà.
Dès que le TGV est arrivé, on s'est dit, tiens...
Il y avait une nouvelle clientèle qui est arrivée.
Toutes les maisons vont être beaucoup plus chères, quelle que soit la maison, qu'elle soit de qualité ou pas de qualité. C'est pour ça que je vous dis que tout ne se vend pas. Une estimation doit être faite quand on se déplace. Un prix au mètre carré ne veut rien dire. S'il y a des fuites partout, si la robinetterie...
Il y a eu des modes dès l'instant où...
Mais dès qu'il y a un transport qui arrive et qui est rapide...
Et puis le fait que Laurent Ruquier, Cadmerade, des personnalités comme ça commencent à habiter
à Marseille... On va donner leur adresse.
Non,
mais
ça se, je sais même pas où ils habitent, mais je sais que ça se sait. J'imagine que là aussi, ça crée une espèce de mode.
Mais comme Avignon, comme Toulouse aussi, il y a des villes qui explosent et qui sont à la mode, et après qui sont un peu moins à la mode.
Et puis il y a des logements surtout qui sont complètement insalubres encore dans des villes comme Marseille et qui arrivent à se vendre quand même.
En tout cas, là, ça s'est assaini, Marseille, et c'est devenu un peu plus logique, en tout cas dans les prix, depuis un an ou deux ans.
Tu faisais référence malheureusement aux immeubles qui s'écroulent. Mais là, c'est carrément des fautes. Oui.
Voilà. Mais là, c'est pour ça que tout n'est pas correct, et tous les logements ne sont pas corrects. Donc, il faut faire attention quand on achète quelque chose. Un prix au mètre carré ne veut rien dire. Il faut vraiment voir la structure de l'immeuble, évidemment, la preuve. Mais il faut aussi voir les installations, les robinetteries. On peut jamais faire une estimation, par exemple, par téléphone. Et d'un quartier à l'autre, du 8e arrondissement ou du 5e arrondissement, c'est pas du tout le même prix.
Mais il y a des lois, j'imagine, qui protègent sur les malfaçons.
Si on est un professionnel, oui, mais si on est normalement...
Vous dites qu'il faut vérifier les tuyauteries, machin. Si on se rend compte après que...
Non, si vous êtes un particulier et qu'il y a pas de... Vous n'êtes pas professionnel, donc il n'y a pas de vis de forme. Donc c'est le... Voilà. Par une agence, oui, il faut... Quand vous passez par une agence, c'est considéré comme un professionnel. Donc là, vous pouvez vous retourner. En revanche...
Il y a une assurance, quoi.
Voilà. Si vous n'êtes pas professionnel et que vous vendez
C'est pour ça que c'est plus cher avec par une agence que...
Pas forcément plus cher.
De particulier à particulier.
Non, parce que comment ça se passe en général? Non, mais ça, c'est vrai. Parce qu'en général, les particuliers font venir des agences. Donc l'estimation est faite par les agences, et après ils se mettent au prix de l'agence, voire un peu plus, puisque voilà, en fait ils veulent regagner la commission d'agence dans leur prix à eux.
Mais pourquoi il y a une réputation toujours de mensonge autour de l'agent immobilier?
Pourquoi le garagiste répare pas? Non,
détournez pas ma question.
Non, mais en fait, parce qu'il y a eu un mot au départ, on disait que c'était un métier facile quand on était là juste pour ouvrir une porte et que l'argent était facile. Ouais. Mais par exemple, quand vous allez dans n'importe quel autre pays, l'agent immobilier est beaucoup plus respecté. C'est que le français a un peu des oursins dans les poches, et on se dit pourquoi aller payer 10 000 euros, 5 000 euros, 4 000 euros à quelqu'un qui ouvre une porte? Heureusement, les dossiers sont devenus beaucoup plus compliqués maintenant avec tous les diagnostics, toutes les lois, et donc on a un peu plus de valeur de l'agent immobilier, mais partout ailleurs, dans n'importe quel pays, c'est normal de payer quelqu'un pour trouver quelque chose.
Y compris pour trouver des locations, y compris pour préparer des dossiers et des cautions, il faut toujours avoir 25 membres de la famille qui cautionnent parce qu'on peut pas louer tout seul.
Ça c'est la.
Il faut trop de garanties.
Puis des membres de la famille actifs.
Alors, c'est ça.
Alors, ça c'est un peu la loi qui est un peu mal faite, c'est que soit il faut un garant, même quand vous gagnez bien votre vie et même quand vous avez 40 ans, soit ce qu'on appelle une assurance de loyer impayé. Mmh. Et cette assurance de loyer impayé, comme toutes les assurances, ils ont tellement de garanties que c'est impossible d'avoir accès. C'est-à-dire que là, quand vous avez une assurance de loyer impayé, il faut avoir 3,5 fois, voire 4 fois le revenu en salaire.
C'est dingue,
et que vous pouvez même pas prendre un garant. Et ça veut pas dire que que vous gagnez beaucoup d'argent que vous allez être un bon payeur. C'est ridicule, ça. Sauf que comme la loi, quand on est un mauvais payeur, on peut pas mettre les gens dehors. C'est devenu compliqué. Et qu'en France, on a l'impression que quand on est nos propriétaires, on est riche. C'est pas du tout. Il y a des retraités qui prennent un appartement pour faire leur retraite, il y a des parents qui prennent pour leur enfant et qui louent en attendant. C'est pas parce que vous avez un appartement que voilà. Et sauf que vous pouvez pas mettre les personnes dehors, quelles que soient les conditions où ça
mais
prend
2 ans. Est-ce que c'est pas à dépenses équivalentes, est-ce que c'est pas plus facile d'obtenir un crédit dans une banque pour devenir propriétaire que d'avoir des garanties et des cautions pour être locataire?
En tout cas, quoi qu'il arrive, que quand vous pouvez acheter, oui, c'est plus facile d'avoir. Et puis en plus, vous choisissez votre appartement, vous choisissez ce que vous pouvez acheter. Quand vous êtes locataire, c'est le propriétaire qui décide.
Et il vaut mieux avoir plus petit et être propriétaire?
Ah, je pense, oui, il vaut mieux un plus petit chez soi que en plus un locataire, voilà, il va décider ce qu'il veut, quoi. S'il veut reprendre l'appartement, il va le reprendre avec un préavis, vous êtes obligé de
placer sa propre famille dans l'appartement, par exemple.
Voilà, si 6 mois avant, si vous prévenez, vous pouvez reprendre l'appartement.
On peut se faire virer.
Je connaissais pas cette passion, Nagui, que vous aviez pour l'immobilier. Là, ça fait.
J'essaie de comprendre.
Si t'es propriétaire, tu peux décider de demander à tes locataires de partir après un certain temps en disant que l'appartement, tu vas l'utiliser pour le louer à ta fille, à ton neveu.
Ouais. Bon, faut faire un enfant, hein.
Ouais, alors ça, c'est encore autre chose.
Ça, c'est encore autre chose.
La bande originale de Stéphane Plaza en 1970, la musique que vous entendiez à la maison, c'était...
Donne-moi ta main.
On est dans les années 70, en 70 même, Stéphane, l'année de votre naissance. Et vous êtes un petit garçon qui...
Mais oui.
Oui.
Ça n'a pas changé.
Un garçon peut changer
la vie. Et vous avez décidé... l'école, ce n'était pas votre truc, en fait, je crois.
Quand elle était finie, c'était mon truc.
Ouais, non, voilà, c'est
voilà,
ça.
Voilà. Ouais. Ça m'a marqué. Non, c'était pas vraiment mon truc. L'école m'a rattrapé, les études m'ont rattrapé, on va dire.
Ouais.
Voilà, je suis plutôt un autodidacte, mais heureusement, à l'époque, on pouvait le faire. Maintenant, il vaut mieux aller loin dans les études.
Vous étiez bon en quoi ?
En mathématiques. Bah, c'est les commissions. Bah déjà, les commissions. L'argent.
1998. One wake me up before you go go. Et
c'est une année marquée par un accident,
98.
Chute assez terrible qui fait que vous brisez les deux talons.
Les deux talons, oui.
En tombant dans un escalier.
Je suis tombé dans l'escalier. Je n'avais pas bu, hein. Je précise, mais
pour une fois.
Oui, merci pour le. Le salaud.
Mais c'est vrai que les talons, c'est difficile. Pour marcher dans l'escalier,
c'est un stiletto.
J'avais les talons de 12 mètres, c'est pas facile à marcher.
12 centimètres.
Voilà, oui, 12 centimètres.
Est-ce que 12 mètres
C'était impossible, 12 mètres. Hein, ouais, tu vois, ouais. Je suis tombé, je me suis brisé les deux talons. Et j'ai fait 8 mois de convalescence et quelques opérations, 8 ou 9, pour être de nouveau en état de fonctionner.
Mais alors que vous faisiez de la danse, donc vous êtes plutôt quelqu'un qui sait bouger avec son corps.
À 3h du matin, je ne devais pas faire de la danse. Peut-être que j'avais un retour d'alcool, peut-être finalement.
Mais en tout cas,
bah ça va, dis donc.
Non, mais ça, c'est quand même une grosse période coupée du monde aussi.
Oui, mais ça, c'est bien parce que ça remet les choses en place. C'est-à-dire qu'à l'époque, je me rappelle, j'organisais des soirées en fait. J'avais un carnet d'adresses et j'allais dans les boîtes de nuit. En fait, je donnais la clientèle. On était 3 potes et on avait un peu accès à toutes les boîtes de nuit. Et du jour au lendemain, donc je me suis retrouvé 8 mois à l'hôpital et on va dire que 2 semaines après, mon téléphone n'a plus beaucoup beaucoup sonné, voire plus sonné. On venait plus m'emprunter ma belle voiture, ni rien du tout. Et j'ai eu peu de monde à l'hôpital et ça remet les choses en place. Alors soit on est aigri.
Donc vous êtes conscient de la fragilité
de tout.
De tout. Et y compris maintenant, évidemment, votre autorité. Voilà.
Mais d'ailleurs,
vous dites toujours, je suis plus à la télé, on parlera moins.
Bah, en tout cas, j'ai toujours dit que, heureusement que la télé m'est arrivée à plus de 30 ans qu'à 20 ans, sinon j'aurais pu péter les plombs et être con. Je vis les bons moments, mais je laisse les cons de côté. Je sais très bien qu'on va moins me regarder si je suis moins à la télé ou si j'ai moins d'agence. Peu importe. Il y a du bon dans chaque personne et moi, maintenant, je vis ma vie en respectant les autres.
En 2006.
George Michael, Prince.
Ah, il aime bouger, hein.
Et en 2006, Stéphane, c'est Recherche appartement ou maison, l'émission qui vous a aussi fait connaître massivement pour le coup du grand public.
Ouais, ouais, ouais. Alors déjà Prince, pour moi, c'est l'un des plus grands chanteurs et je kiffe vraiment. Donc et c'est voilà, j'ai embrassé le monde et les téléspectateurs, mais avec mon cœur et les sentiments, parce que j'ai pas voulu être formaté, ni dans ma façon de m'habiller, ni dans mes discours. Et donc on a fait d'abord une émission, puis après 5 émissions, puis après 10. Et aujourd'hui, voilà, je suis arrivé en plus un peu innocemment à la télé parce que moi je voulais vraiment qu'on arrête de dire que justement agent immobilier n'était pas un métier et je me rendais pas compte du tout où j'allais atterrir et j'ai jamais vraiment demandé à être animateur ou à la télé. Je rêvais de théâtre mais jamais d'être animateur et du jour au lendemain ma vie en tout cas a changé progressivement et ça a été empirique et c'est monté.
Qui est venu vous chercher?
C'est Réservoir Productions et au bout de 6 ans paix à son âme, Jean-Luc Delarue m'a dit profite de ces moments là que tu as etc. parce que là ils sont bon, t'es connu, mais pas trop connu. Après, tu vas passer peut-être une sphère, ce que je te souhaite, ou pas, parce que là, tu vas être un peu, il va avoir de la solitude autour de toi.
Donc, vous l'avez connu, lui,
oui, personnellement
et humainement. Et tout ce qui s'est passé autour de lui, les livres qui sortent, les racontars,
c'est de la merde. C'est de la merde, parce que tous les gens qui le connaissent très bien, déjà, n'ont pas besoin de buzz et n'ont pas besoin d'aller à la télé raconter des choses. Je pense que quelqu'un est parti, paix à son âme, il a eu des travers, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, il a eu tort de faire ça.
Pourquoi remuer ça après?
Pourquoi pour avancer sur quoi? Juste pour avoir un nom à côté de Delarue, parce que c'est un grand homme, c'est un quelqu'un qui a été très brillant, qui a fait beaucoup de bien autour de lui, qui a été très aimé par les téléspectateurs. Laissons-le en paix, il a un fils et arrêtons de l'emmerder, c'est tout ce que j'ai à dire.
Et est-ce que vous avez connu le vertige dont il vous parlait, même temporairement, de cette solitude associée à la célébrité?
La solitude, je pense qu'on l'a toujours malgré qu'on pense, enfin en tout cas quand on est assez connu, parce que on est très entouré, mais finalement on est très seul, c'est-à-dire que quand une émission fonctionne ou quelle qu'elle soit, on a toujours l'impression que c'est que l'animateur mais en fait il y a beaucoup de monde autour et quand elle ne fonctionne pas c'est aussi que l'animateur, donc on a beaucoup de poids sur les épaules et par exemple si on prend un téléphone et qu'on le met ici, on va dire bah tiens pourquoi il a mis son téléphone là, ou on le déplace ou un verre, si on a bu un verre on va dire qu'on en a bu 10, tout est facile et donc on se sent de plus en plus seul, mais après ça tout va bien, hein, mais voilà, il faut faire attention à ses amis.
Le regard des autres ne vous dérange pas?
Non, je peux me mettre nu sur scène.
Ouais, ce que j'ai dit,
mais je vis ma vie et je fais ce que j'ai à faire avec mon cœur. Et si j'ai envie,
raison.
Voilà, je vis
sans
à 100%.
Sans vous soucier du candidaton.
Non, parce qu'il arrive, il repart et ça reste. Le buzz n'est pas beaucoup là.
La bande dessinée s'appelle Stéphane Plaza. C'est et en sous-titre L'amour est dans le pré. Catherine Rambert, bonjour.
Bonjour.
Merci de venir à notre micro. Vous êtes journaliste, écrivain. Vous avez été longtemps rédactrice en chef de Téléstar.
C'est
donc vous connaissez ce monde de la télévision. C'est quand même la première fois qu'on retrouve une personnalité de la télévision, héros de bande dessinée. Comment expliquer le succès, la marque Stéphane Plaza?
Le succès de Stéphane Plaza, il s'explique d'abord par sa grande compétence et le désir des chaînes maintenant, je ne parle pas de journalisme, je parle de l'animation, de faire appel à des professionnels pour augmenter leur degré de crédibilité et la confiance des téléspectateurs. Et Stéphane Plaza, il allie à la fois cette compétence, cette crédibilité, avec de l'empathie, du sourire, de la bonne humeur, comme quoi la compétence et l'empathie, c'est possible. Hein, voilà. Je dirais même que c'est l'anti-Macron de nos jours, Plaza. Voilà, beaucoup d'empathie pour les gens, et une grande crédibilité, une grande grandes compétences. Voilà.
On est en direct.
Très bien. De toute façon, ils ont son adresse.
Hein. Tu crois?
J'adore le mec qui se désolidarise. De toute façon, je pense pas être leur principal problème en ce moment.
D'un coup, le propos, là, je vais très bien. Ok. Je m'attendais pas à cet outing. Est-ce que...
Moi, je l'aime beaucoup, ce. Hein.
Si ça vous va, très bien. Ils ont votre adresse aussi.
Ça, ils la connaissent bien.
C'est l'un des rares animateurs qui incarne M6, qui n'a pas. Enfin, je sais pas, il doit y avoir 3-4 animateurs, je sais ce que je prends des risques en disant ça, qui portent la chaîne.
Ouais.
Non, mais par rapport aux autres chaînes de télévision, où ça se compte plutôt en dizaines, le nombre d'animateurs, là, il y a Stéphane Rottenberg, Karine Marchand, vous.
Chebès, Lignac, voilà, mais après.
Un peu moins
Jean-François Piège, mais qui eux sont des professionnels, justement, et pas des animateurs de télé au sens propre. Ça veut donc dire que la chaîne repose sur ses valeurs sûres aussi?
Ça veut dire déjà que c'est un homme fidèle, hein, 10 ans, je crois que c'est la 10e année que vous êtes, que vous exercez sur M6, donc c'est assez rare.
Et puis les chaînes gardent aussi.
Et là, aucune vanne, non?
Si vous voulez, je peux en faire une autre.
Il y a Ginola, Ginola.
Et surtout, oui, en effet, ça devient du coup une valeur sûre. Je pense que quand on cite maintenant M6, je crois que les premiers animateurs qui sortent, c'est vous-même et Christina Cordula. Donc, ces piliers de la chaîne. Ouais.
Le fait que ce soit, qu'il soit crédible dans un monde professionnel autre que la télévision et qu'il s'appuie sur cette notoriété, ses connaissances pour exercer la télé, à part Stéphane Plaza, Michel Simès, c'est les deux qui ont cette crédibilité de grands professionnels et qui restent d'ailleurs dans ce domaine de leur profession pour exercer leur animation. Il y a d'autres exemples ?
Il y a peu d'exemples. Il y a des économistes comme François Langlais qui amènent une vraie contribution parce avec un vrai regard économique. Mais surtout, en fait, ces professionnels-là, ils amènent leur crédibilité au service d'une chaîne, mais ils amènent aussi leur humour. C'est-à-dire que ce sont des animateurs qui s'ignoraient avant de devenir animateurs. Donc, ils allient à la fois le côté compétent qui rassure, et les gens ont vraiment besoin, surtout dans l'immobilier, d'être réassurés d'une compétence. Et en même temps, Stéphane a montré l'étendue de son talent en étant drôle, en étant faisant d'humour. Il montre qu'on peut être compétent et être très décalé.
Mais est-ce que c'est c'est une nouvelle tendance qui risque de continuer, de se poursuivre? Est-ce que les télévisions vont aller chercher d'abord des professionnels de leur domaine? Ce qui est un peu le cas aussi, je pense à The Voice, où les jurés sont des éléments importants de la mécanique de l'émission. Donc ce sont des chanteurs qui viennent jouer un peu le rôle aussi d'animateur ou de co-animateur au milieu d'une émission.
Oui, je crois qu'on peut dire que ça peut être une tendance dans l'avenir. Encore une fois, je parle notamment...
Non, mais on prend des Bicente Elizarazu, joueur de football, pour animer, présenter Téléfoot, co-animer Téléfoot. C'est-à-dire, on se dit, plutôt que de mettre quelqu'un qui est simplement journaliste, ce qui est déjà une bonne chose, mais journaliste, et qui pourrait être journaliste dans différents domaines, au moins là, c'est une marque, et il est marqué sur son front le métier, le domaine dans lequel il évolue.
Absolument. Étant journaliste moi-même, je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur les journalistes et sur le manque de confiance qu'ont les Français à l'égard des médias.
C'est pas ce que je voulais dire. Vous pouvez parler de plusieurs choses.
Oui,
un journaliste peut parler de plein de choses différentes.
Mais je pense qu'il y a un besoin, une demande de spécialisation et de compétences extrêmes dans un domaine, ce qui n'empêche pas en effet des gens un peu plus multicartes. Ça répond à un désir vraiment de réassurance qu'ont les Français, notamment vis-à-vis des médias et vis-à-vis des voix dans les médias.
C'est le cas aussi à l'étranger de voir cette spécialisation des animateurs.
Je crois que ça arrive. Alors l'exemple le plus fameux, c'était Trump qui animait une émission aux Apprentices, qui était un homme d'affaires à l'époque. Bon, on a vu ce que ça a donné. Je ne sais pas si vous comptez vous présenter à la présidentielle.
Pas encore,
ça venait de grand dérapage.
Non, c'est pas prévu du tout.
Non, mais il y avait un célèbre psy qui s'appelait Dr Phil, je crois, qui avait été aussi animateur d'émission, une émission d'accueil, comme ont pu le faire justement et Jean-Luc Delarue ou Sophie Davant ou autres, et qui avait fait un carton. Aux États-Unis. Donc visiblement, la notion de je suis un professionnel et je me sers de mon métier, de mon savoir-faire pour passer devant les caméras, c'est une tendance. Maintenant, est-ce
Absolument.
Que c'est juste l'une des pistes ou est-ce que ça deviendra un phénomène de mode et où il n'y aura que des professionnels qui viendront à la télé ? C'est un peu ça la question qu'on peut se poser aussi.
Alors moi, je ne suis pas voyante, mais je pense que néanmoins, on peut s'appuyer sur cette tendance-là. Parce qu'il y aura,
il y a une
vraie demande de faire venir des vrais gens dans la télé, les gens du métier, les gens du terrain. Et je pense que oui, Stéphane correspond bien à ça, mais comme Simès, comme d'autres, voilà, faire rentrer la vraie vie dans la télévision.
Ils ont donc l'un des points communs entre Stéphane et Michel, c'est qu'ils ont gardé leur autre métier. Ils n'ont pas abandonné leur métier pour la télévision. Encore. C'est une manière de se protéger en cas d'arrêt de la télé, à votre avis ?
Ça, c'est possible. En tout cas, oui, ce qui est sûr, c'est quand, pour certains animateurs ou personnalités qui n'existent que par la télévision, c'est sûr que quand on quitte les feux de la rampe et quand on quitte l'antenne, il y a un décrochage compliqué. Là, l'avantage de gens comme Simès...
C'est une dépression, en fait, quand ça s'arrête.
Et l'avantage de Michel Simès ou de Stéphane Plaza, c'est qu'ils ont d'autres... D'ailleurs, Stéphane expliquait qu'il est attaché à son métier, qui est son référent, sa valeur, c'est ce qu'il aime. Si demain la télé s'arrête, ce sera peut-être un petit peu dur pour lui. Mais non, il a un métier derrière et il a prévu la suite, si je puis dire.
C'est-à-dire qu'aussi, on peut se permettre de refuser des programmes qu'on ne veut pas faire. C'est ça l'avantage. Ce qui a été mon cas, en tout cas. Et j'ai aussi arrêté un programme qui changeait trop et qui ne me convenait plus.
Sous quel prétexte? En disant, c'est plus de l'immobilier, ça m'intéresse
pas? Non, pas du tout. En fait, moi, j'avais fait un programme qui était un jeu. Qu'est-ce que je sais vraiment avec Carré de Lemarchand? J'étais venu en pompier, donc j'ai fait 1 an, puis 2 ans, puis 3 ans. Et puis, ça a évolué et c'était pour moi moins drôle. Il y avait moins d'happening, etc. Ça ne me correspondait plus. J'avais rempli une tâche par rapport à ma chaîne. Et si ça ne me correspond pas, j'ai pas envie d'aller faire quelque chose juste pour gagner un salaire. Moi, j'ai la chance d'en avoir, en tout cas, d'avoir un autre métier. Ça me permet aussi d'avoir une distance et de dire, si j'y crois pas, je n'y vais pas. Et la télé, je suis très content de l'avoir fait, mais je sais que ça va s'arrêter du jour au lendemain, ou de mon fait, ou du fait de la télé, parce que ça peut être aussi un animateur qui part quand on a un peu fait le tour.
Bien sûr.
Parce que ça, c'est l'intelligence de la chaîne. On disait, vous êtes fidèle à M6, mais M6, ça fait en sorte de ne pas vous perdre non plus pendant cette décennie. C'est-à-dire que ils sont très attachés à vous quand même.
Oui, en tout cas, ils m'ont suivi dans beaucoup de choses et ils sont plutôt intelligents et surtout on a un langage très direct avec cette chaîne. Après, moi, j'ai le respect du ventre, donc.
Mais ils sont aussi partenaires dans vos agences immobilières.
Ouais. Je leur ai proposé, donc ils sont devenus partenaires, donc ils sont donc là.
Donc là, c'est un lien qui est plus que contractuel.
Voilà, c'est un lien qui est très très fort. Mais évidemment qu'on m'a proposé d'autres chaînes et que je suis resté parce que pour moi, il n'y avait pas de question de partir. Quand tout va bien, on va pas tenter le diable.
Merci beaucoup Catherine Rambert d'être venue à ce micro. Merci. Tanguy Passero, bonjour. De plus en plus de gens rêvent de se déconnecter d'Internet.
Mais oui, parce qu'ils ont l'impression d'être sollicités en permanence. Rien que ce matin, j'ai reçu 4 alertes BFM disant qu'il ne neigeait pas. Plus une alerte Morandini disant que Morandini sur CNews avait dépassé CBS en audience. Un hôtel en Suède a réfléchi à ce besoin de déconnexion et propose la nuit gratos aux clients qui parviennent à ne pas se connecter.
On en parle juste après les infos. La bande originale, c'est parti pour cette dernière demi-heure jusqu'à midi et demi avec un invité qui, lorsqu'il n'est pas au théâtre, à la télé, au cinéma, eh bien cette star de l'immobilier se met à la bande dessinée. Aujourd'hui, Stéphane Plaza est avec nous. L'amour est dans le pré avec votre copine Carine Lemarchand pour ouvrir cette série de bande dessinée, cette série de sketch. L'idée étant, vous voulez relooker, vous occuper de la campagne, mais en fait c'est une catastrophe pour la campagne.
C'est une vraie catastrophe pour la
campagne. Comment ça souvent,
c'est une catastrophe. Moi je suis pas encore un homme de la campagne, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que je ne suis pas doué de mes mains, j'ai vraiment 2 mains gauches, et c'est vrai que je les aide pas dans cette BD un peu à la campagne.
Ouais. 2 mains gauches, plus de talent dedans commence à tomber en tête.
La voyante l'a dit. Hein.
Et alors, expliquez-nous le principe du home staging.
Elle l'a tellement bien expliqué. C'est ranger, épurer, vous rangez, désencombrer.
Vous rangez les cochons, les poules et les lapins aussi.
Voilà,
dans un HLM.
Une petite pièce, une fonction. Donc on épure, on vide, on regarde le volume.
C'est quoi on épure? On jette?
On épure, on trie, on jette.
On donne.
En fait, le home staging, c'est embellir la mariée. Ça veut dire que c'est créer un coup de cœur dans une maison en redonnant du volume, en redonnant de la lumière, que ça sente bon, que ça soit propre. Ce qui paraît évident, mais qui n'est pas toujours le cas dans tous les appartements.
Quel est le plus gros problème que vous rencontriez quand vous visitez, quand vous voyez une
maison? Il m'est arrivé de ranger un appartement ou de refaire un lit où on se pense qu'il y avait eu une bonne fête la veille. Hein, où, vous voyez,
je ne parlais pas de ça.
Non, mais par exemple,
je dis que la notion dont vous parlez, c'est-à-dire une espèce de cumul d'un joyeux bordel qu'on appelle la vie, ne met pas en valeur l'appartement.
Bah, si c'est un peu de vie, ça va, parce qu'on se dit tiens, c'est un appartement vivant. Mais s'il y a trop de vie, trop de vaisselle, trop de choses dans la salle de bain,
ça assombrit, ça obscurcit. Bah,
en tout cas, ça donne déjà pas envie d'aller visiter ces choses-là.
Et pardon, à l'inverse, quand c'est trop dépouillé, quand il y a rien,
c'est un peu de vie, c'est bien. Ouais. Mais trop, voilà, que ça soit un peu de jouets, un peu de choses dans les appartements, c'est bien. Mais quand c'est trop le bordel, qu'il y a des fringues un peu partout, qu'on peut pas mettre un pied devant l'autre, en tout cas, on voit pas vraiment le volume, on regarde pas vraiment l'appartement, on regarde plus ce qui s'est passé la veille, on commente, mais on voit pas la beauté de l'appartement.
Donc vous conseillez du coup à ses clients d'investir un petit budget, c'est ça,
de femme de ménage ou d'homme de ménage, en tout cas pour ranger un petit peu quand j'arrive.
Non, il paraît qu'il y a des métiers, mais je sais pas comment ça s'appelle, de gens qui viennent trier.
Oui, alors c'est même des thérapies, ça fait beaucoup de bien.
Trier et ranger.
Ça s'appelle des huissiers. Mais.
Non.
Tu as raison.
Ça s'appelle comment ça, Stéphane, des gens qui trient et qui rangent les maisons.
Moi, je pensais que c'était des hommes de ménage.
En fait, il y a même des conférences en ligne sur Internet, vous trouvez ça, où on vous explique comment bien tenir votre maison. Mais au-delà de tenir, c'est de faire des choix, de jeter des choses. Ça veut dire beaucoup de choses sur ta psyché, en fait. Qui tu es, comment tu te positionnes dans la vie.
Il y en a qui ne savent pas jeter.
Ouais.
Alors oui, c'est vrai qu'on dit en général même de trier ou d'avoir des papiers qui sont rangés. C'est pour la tête, c'est mieux. Pour prendre des bonnes décisions, c'est mieux parce que tout est coordonné dans son appartement. Ça, c'est vrai. Mais moi, je leur demande même pas ça. Qu'ils foutent les affaires dans leur placard, quoi. Je veux dire, qu'ils les laissent pas en dehors du dressing, qu'ils rangent leurs papiers dans leur bureau.
Non. Mais ça, c'est caché la misère. On peut ouvrir 2-3 placards. Et
oui, mais c'est leurs papiers à eux. Donc tous les papiers partent en général quand on déménage.
Vous, c'est que l'apparence. Non. Là, elle parlait de quelque chose de plus profond et de plus.
Non, mais pour
utile.
La tête,
de
plus structuré. Pour la tête, c'est bon. Et on dit aussi que pour la lumière, quand elle rentre dans un appartement, la lumière du jour, c'est aussi bon pour le moral et pour la tête d'un être humain.
Et j'imagine que ça arrive que les personnes n'ont plus envie de vendre une fois qu'elles ont un peu réagencé leur maison.
Ah ouais, c'est marrant.
Alors,
ça.
Dans les
une fois que c'est bien présenté, que c'est bien peint.
Finalement, je l'aime bien cette baraque.
Ah, alors, dans l'émission, en tout cas, normalement, ils sont déjà engagés autre part. Ouais. Donc, il faut qu'ils vendent une des deux. Donc, en général, ils gardent quand même la nouvelle qu'ils ont achetée.
Allez, voici Tanguy Passion. Tanguy, j'ai envie de vrai, d'authentique, de retour à l'essentiel.
Ouais, je comprends, Nagui. Moi aussi, j'aimerais être avec vous dans un pré en train de faire cuire sur un feu de bois des saucisses certains. L'homme moderne, coupé de ses racines, a soif de naturel, de poils, d'odeur corporelle. Vous lui montrez une photo de Daniel Morin dans le Périgord en train de caresser un castor, il devient moite. Si en plus Daniel est en short, il entre en érection. Et si le castor lui aussi est en short, il jouit. On rêve au fond que de choses simples. Un pain de campagne, un litron de gnôle, la vie de Jean Lassalle. Avec cette flamboyance que constitue le fait de mourir d'une MST à l'âge de 26 ans. Mais on s'est collé tout un tas de besoins factices, comme par exemple Internet, ce truc qui a permis l'avènement de Macron, puis d'Éric Drouet, puis de Bilal Hassani, mais surtout de Grumpy Cat, un chat qui fait la gueule. La bête ressemble à Isabelle Huppert si elle est pris des hormones le même mois où elle avait perdu sa pince à épiler. Avant Internet, on était heureux. Pour réserver un vol Paris-Madrid, on allait à l'agence Air France, on se faisait envoyer paître par un guichetier à cariatre. Pour acheter du sel, on allait au Monop, on se faisait envoyé bouler par une caissière qui nous jetait la monnaie à la gueule. On se sentait en France. Moi, j'ai des amis vivant à l'étranger qui m'appelaient en me disant « J'ai le mal du pays, insulte-moi !» Je leur répondais « Pourri, ordure, fan de la Rousseau !» C'était il y a 20 ans. Hein. Mais maintenant, il y a l'appli Kayak pour les billets d'avion, l'appli Oura pour les courses, l'appli Tinder pour faire l'amour. Avant, il fallait aller dans un bar, payer des verres à la personne, un verre si on était désirable, 37 si on était moche, faire croire à l'autre qu'on était majeur, et à 4h du matin, être trop crevé et dire « Bon bah ciao !» Non mais aujourd'hui avec Amazon Prime à Paris, vous commandez en ligne une laitue, on vous la livre dans les 30 minutes. C'est-à-dire que la laitue arrive plus vite que le SAMU si Mamie Renée est en train de crever dans le salon. Mais qui a besoin qu'une laitue arrive en 30 minutes à part Henri Caron? Dimanche, j'étais dans le TGV de retour de Toulouse, hein, grande ville de musique puisqu'elle nous a donné Jean-Pierre Madère et les groupes Gold, Image et Pacifique. Toulouse, c'est le Memphis français. Et bah dans le TGV, on peut commander son café sur une appli et aller le chercher au bar, il est prêt. Ce qui ne sert à
rien, on gagne 25 secondes. On fait rien en 25 secondes, sauf Laurent Deutsch qui a le temps de dire 12 phrases. Bref, Internet, ça n'est que du temps perdu, mais c'est dur de se déconnecter, car on a l'impression d'exister juste parce que 4 pleut plus, on likait la photo de notre chien. C'est pourquoi en Suède, un hôtel nous aide à faire ça. Alors un hôtel suédois, c'est comme un hôtel chez nous, sauf qu'au lieu d'entendre dans la chambre voisine « Oui, oui, vas-y mon gros loup », on entend « Ya, ya, je t'aime mon élan ». Alors cet hôtel, le Bellora à Göteborg, propose une nuit gratuite à toute personne qui arrive à se passer d'Internet.
Mais comment prouver justement que les clients ne se connectent pas sur Internet ?
Eh bien Nagui, parce que les chambres sont équipées de lampes intelligentes. Alors je ne sais pas ce que ça signifie. Je pense que ce sont des lampes qui refusent de s'allumer quand vous avez dans la main le télé Z. Vous prenez un Guillaume Musso, elles clignotent légèrement. Vous prenez Critique de la raison pure de Kant, elles font solarium. Et ces lampes sont capables de calculer le temps qu'on passe sur Internet. Elles ont la même fonction qu'une mère pour un ado, sauf qu'elles ne lavent pas les slips. Alors au départ, la lumière émise est blanche. Plus on se connecte, plus elle devient rouge. Le matin, un monsieur de l'hôtel vient voir la lampe. Si elle est restée blanche, c'est que le client ne s'est pas connecté. Hein. Il gît sur son lit avec de la bave parce qu'il est en manque. Il a donc la nuit gratuite. Puis on lui lit les dernières news sur Yann Moix. On lui donne des nouvelles des fesses de Kim Kardashian. Et peu à peu, il récupère en murmurant « Ah, c'est bon !» Et le clash Joestar Hanouna, ça en est où ? En fait, cet hôtel donc répond à une mode, celle des vacances déconnectées. Les gens ont envie d'arrêter Internet mais n'y arrivent pas seuls. Parce que c'est une drogue. Moi-même, si à la fin d'une chronique, j'ai pas minimum 60 messages sur Twitter me disant « Tanguy, t'es magique, quand je t'écoute, je me pisse dessus, c'est en partie à cause de mon âge, mais pas que ben », je tombe en dépression. Donc, ils trouvent des offres de vacances sans Internet. Soit aller dans un hôtel comme celui de Suède, là, soit aller dans le Cantal, où on ne reçoit pas Internet, ni la radio, ni la télé. Frédéric Lopez a vu pour y envoyer 4 mirades au contact des autochtones. Alors, à noter qu'en plus, une étude publiée par des chercheurs américains, selon une étude, les utilisateurs de Facebook déconnectés pendant un mois sont plus heureux. Hein, les effets sont immédiats. Vous passez de la tête de Martine Aubry un soir de déprime à celle de David Guetta quand il a réussi à mixer avec le doigt de pied. Et pourquoi ce bonheur ? Eh bien parce que les gens déconnectés ont passé plus de temps avec leurs proches. Ah ouais. Chose qu'on ne fait plus. Hein, moi, il y a des gens de ma famille que je vois plus sur Facebook qu'en vrai. Quand à un mariage, on se retrouve, par habitude, j'essaye de les faire défiler avec le doigt. Hein, une fois sur deux, je leur récure la narine. Enfin, ils le prennent mal. Mais les déconnectés sont aussi plus heureux parce que selon l'étude, ils regardent plus la télé. Hein, normal. À la télé, on voit Castaner dire la manifestation de samedi, c'est bien déroulé. Il y avait 50 000 manifestants et 7 millions de policiers. On se dit, c'est bien géré. Au même moment, sur Facebook, Maxime Nicole dit, ça va péter, Macron, on va le défoncer. C'est anxiogène. Bref, si on coupe Internet, on est mieux. Regardez, moi, ça fait 5 minutes que je ne me suis pas connecté. Je suis super content.
Merci, Tony Bonjour.
La bande originale, la vie sur France Inter.
Stéphane Plaza se confie comme jamais dans la bande originale. Ce matin, il nous en dira plus après des Limignanas. Ça s'appelle La Nuit Fantôme. C'est la bande originale de votre matinée. C'est sur Inter et on vous souhaite une très bonne journée.
À certaines heures de la nuit, je fais le rêve prémonitoire de ta silhouette qui s'enfuit au volant d'une Jaguar noire. J'ai beau partir à ta poursuite, tu joues la fille de l'air. À chaque fois tu t'éclipses, flottant dans les vapeurs d'éther. certaines heures de la nuit, je fus le rêve prémonitoire de ta silhouette qui s'enfuit au volant d'une Jaguar noire. J'ai beau partir à ta poursuite, tu joues la fille de l'air. À chaque fois tu t'éclipses, flottant dans les vapeurs d'éther. Autour de nous, à l'infini, je sens vibrer l'énergie noire des étoiles et des galaxies, du futur et de son miroir. Mais moi, tel un vieux pharaon, je pèse le pour et le contre. Car lorsque tu franchis le pont, les fantômes viennent à ta rencontre.
Stéphane Plaza, la scène justement, ça vous démange de remonter sur scène, de jouer, d'être au théâtre ?
En tout cas, je recommence des lectures et c'est prévu pour 2019, voire janvier 2020. Alors pour l'instant, je ne connais pas quelle pièce, j'ai pas choisi la pièce. Mais
est-ce que vous avez envie d'être auteur ? Parce que ce soit dans cette bande dessinée ou que ce soit au théâtre, là vous êtes l'interprète des autres, alors que à la télévision, il y a pas vraiment d'auteur. Vous êtes naturel et vous vous laissez porter parce que vous avez envie de dire. Personne ne vous dicte ce que vous avez à dire.
Non, mais alors faire 1h30 d'impro, c'est compliqué.
Écrire,
c'est un vrai talent. Que je ne possède pas.
Qui vous l'a dit ?
En tout cas, on ne peut pas tout avoir déjà et je sais comment j'écris. Mais en tout cas, non, j'ai fait la première partie d'Éric Antoine récemment avec Jean-Philippe Janssen où on a écrit à deux. Donc c'est un premier jet en tout cas et vraiment, j'ai pris plaisir à écrire. Mais c'est vrai que pour l'instant, je préfère interpréter que d'écrire. Après, c'est déjà très dur d'interpréter, donc on verra bien l'avenir. Mais c'est pas évident de se retrouver devant la page blanche, de se dire tiens, il faut écrire, quelle idée on va mettre ? Est-ce que c'est drôle, pas drôle ? J'ai peut-être pas assez de recul. Et c'est vrai que je préfère, en tout cas, quand j'écris, faire rire, même si quand je joue, je peux être autre chose que faire rire.
Justement, là, interpréter, ça serait plutôt dans quel genre ?
En tout cas, je veux toujours être dans quelque chose de drôle, même si moi je n'ai pas forcément le rôle comique, ce qui était le cas dans J'ai perdu Albert où j'ai donné une autre palette parce que j'ai aussi, je pense qu'on a tous des failles et en tout cas moi j'ai des failles à l'intérieur, même si je suis un bout en train, même si j'ai quand même quelques faiblesses et j'ai des moments de tristesse aussi.
À propos de failles, en voici une grosse. Daniel Morin.
Ils sont partout. Ils sont parmi nous. Qui ça ? Eh bien, les envoyés du diable, les suppôts de Satan, les forces du mal. Heureusement que pour notre salut, les soldats de Dieu veillent au grain et sont là pour démasquer ces créatures démoniaques nous incitant à nous méfier d'elles. Parmi ces hommes de foi, il y a le père John Essef, un ecclésiastique américain qui pratique l'exorcisme et qui tire la sonnette d'alarme. Father Essef nous fait remarquer qu'en ces temps de confusion, on voudrait lisser les genres. Il y a des personnes qui encouragent par leurs actions et leurs comportements la confusion des sexes, ce qui est contraire aux bonnes pratiques religieuses. Et qui, dernièrement, a joué le jeu de la confusion ? La démoniaque Céline Dion, qui s'est récemment associée avec une marque de vêtements non genrée. Pour le père SF, c'est clair, Céline Dion est une sataniste, elle est possédée. Vérifions. Oh, force du bien ! Qu'en est-il de Céline Dion, la sulfureuse canadienne ? Est-elle une créature de Dieu innocente, avec comme seul désir celui d'apporter de la joie aux hommes, de la bonne humeur dans les foyers ? Ou bien est-elle une bête immonde au service du mal, se servant de sa notoriété pour répandre le mal ? Donnez-moi un indice, force du bien ! Oh mon Dieu, quelle voix odieuse et perforante! Une vraie perceuse à tympan! J'ai peur que derrière ces cordes vocales en acier se cache l'œuvre du malin! Ah, mes oreilles me brûlent! Je souffre, mais éclairez-moi encore, force du bien! Ah, nom de Dieu de merde, je saigne! Plus de doute, Belzébuth, et derrière tout ça, il faut agir!
Oh, Satan, je t'ai reconnu, sors du corps de cette pauvre brebis québécoise. Laisse-la revenir vers Dieu. Quitte ce corps déjà meurtri par de multiples séances de chirurgie esthétique. Dégage, démon, gilet jaune dévastateur. Arrête de lui insuffler des idées de mélange des genres et de promotion de la perversion.
C'est un garçon pas
connu. Oh, Satan, tu n'es qu'un fils de chien. Retire immédiatement ces paroles d'encouragement homosexuel. Retire-toi, fils de pute. Non, n'essaye pas de m'aveugler, je ne t'aime pas, je ne t'ai jamais aimé. Céline, reviens vers moi, reviens ma fille. Lutte contre le mal, la France, le Québec, la région PACA, tout le monde a besoin de toi. Donne-moi un signe, un indice de ta résistance aux forces du mal.
Ta mère suce des queues en enfer.
Bon, ok, c'est mort, c'est trop tard, faut la brûler. À demain.
Merci, Daniel Mort.
La bande originale avec Nagui.
Stéphane Plaza, profession agent immobilier, l'amour est dans le pré. Vous ne signez pas les scénarii, les histoires, les sketchs qui sont de Dorache et le dessin de Quaco, mais vous les avez influencés en disant voilà les thèmes, voilà les pistes sur lesquelles j'ai envie d'aller. Ça s'appuie aussi sur des situations réelles,
oui,
sur du vécu.
Sur du vécu. Alors pas forcément par moi, mais sur du vécu. Oui, ça part que sur du vécu. Oui.
Pas forcément, mais ça, toujours dans le monde immobilier.
C'est... Toujours dans le monde immobilier. Il y a beaucoup d'agents, je connais beaucoup d'agents, donc c'est la vie de tous les jours. Donc forcément, c'est des hommes comme tout le monde, ces agents immobiliers. Donc effectivement, oui, ça part toujours d'un fait réel.
La météo joue pour beaucoup dans votre métier, c'est-à-dire que j'imagine que lorsqu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, on est dans un appartement qui est mécaniquement plus sombre. Le petit rayon de soleil pour
quand
visiter.
Quand moi je fais des visites, ouais, je regarde la météo et il m'est arrivé de décaler mes jours de visite en disant que je n'avais pas les clés parce que le lendemain il faisait beaucoup plus beau. Et que, non mais c'est vrai, évidemment dès qu'il fait beau, un appartement est plus sympa, la lumière rentre dans un appartement, dès qu'il pleut, tout est gris, déjà on n'a pas envie de sortir, on se prend l'eau dès qu'on sort de sa voiture, on se dit qu'est-ce qu'on va acheter, non. Donc moi ça m'est arrivé de décaler, oui.
Les envies, donc théâtre, à nouveau, le cinéma, vous y avez goûté.
Le cinéma,
comment vous avez vécu cette expérience déjà ?
Plutôt très bien, je me suis retiré 4 mois donc, pour vraiment faire que ça, ça s'est plutôt très bien passé, donc il y a des choses qui se préparent, ou en tout cas on parle de certaines choses, on verra si ça se concrétise ou si j'ai envie d'y aller. Pour l'instant, je me consacre vraiment sur l'immobilier et le théâtre en 2020.
C'était Didier Van Kovelaert et j'ai perdu Albert.
On
avait parlé du livre et on l'avait reçu pour en parler. Et là, vous étiez Einstein.
Dans un rôle, en tout cas, j'étais squatté par Einstein. Hein, dans un rôle d'apiculteur, garçon de café, qui était plutôt sombre, qui était plutôt loser.
Et apiculteur, parce qu'Einstein avait dit quand la dernière abeille mourra, il restera 2 années pour notre humanité.
C'est ça, Donc c'est plutôt, ça s'est plutôt très bien passé. Puis j'ai eu la chance d'être avec Josiane Balasco et Bernard Lecoq et Julie Ferrier. En tout cas, c'est un bon pied dedans. Après, on verra ce qui va se passer.
Mais quelles sont les envies ?
Moi, mes envies, c'est d'être en bonne santé, non, mais c'est vrai, d'être en bonne santé, de vivre des
il
choses à fond.
Il reste quelques mois.
Et apparemment, il me reste moins d'un an, donc il va falloir que j'aille chez le notaire.
Hein.
Tu verras comme ta vanne sera pas du tout drôle dans quelques temps.
Oui, tu verras. Et là, tout le monde.
Ça m'a fait la même avec Aznavour. Hein.
Oh, salaud.
Il était un peu plus âgé quand même.
Merci, Stéphane. T'imagines ce que je vis, moi, au quotidien, avec un truc comme ça.
Non, mais j'aimerais avoir, en tout cas, des rôles un peu plus sombres m'intéressent.
Ah, décalé, ne pas avoir toujours.
Faire un agent immobilier ne m'intéresse pas. Le comique, en tout cas au théâtre et le boulevard, je trouve ça super sympa. Au cinéma et à la télé, c'est beaucoup plus compliqué.
C'est peut-être là la grande différence qu'il y a entre vous et Michel Simès, où Michel dit je veux bien être comédien, mais en jouant des rôles autour de ce crédit que j'ai en étant docteur, en jouant le docteur, en jouant un médecin légiste, et ainsi de suite, ou faire des enquêtes policières, oui, mais en tant que médecin légiste. Vous, au contraire, vous voulez que vous retirez, vous démarquez un peu de l'étiquette agent immobilier.
D'être agent immobilier, non, c'est mon métier de tous les jours. Moi, j'ai fait 7 ans de conservatoire avant d'arriver à la télé. Ce qui m'intéresse, c'est une nouvelle expérience, c'est de vivre autre chose et c'est de faire autre chose que mon métier. En tout cas, c'est de vraiment aller chercher au fond des choses qui sont en moi pour essayer de les sortir.
Et M6 n'aurait pas envie d'exploiter un peu votre image à travers un téléfilm ou une série de téléfilms, parce qu'ils ont pu proposer ça à d'autres animateurs phares de la chaîne il y a quelques temps.
Ou adapter la bande dessinée en sketch aussi.
Oui, ou ouais. En tout tout cas, on fait un programme court, ouais,
alors,
tu as raison.
Alors, en tout cas, on a déjà fait trois téléfilms avec M6 qui s'appelait L'homme de sa situation, qui étaient plutôt des choses assez drôles, en tout cas, un peu avec des gars qui arrivaient à répétition. Dans les deux ou trois ans, il doit avoir un téléfilm, on va voir ce qu'il en est. En tout cas, c'est marqué noir sur blanc, on va dire.
Avant ça, il y aura une émission en access, vous avez annoncé, mélange de déco et d'immobilier.
Plus de déco. En fait, c'est plutôt un agent immobilier qui va conseiller de ne pas déménager. Donc, vous voyez que je suis un peu dans les contresens et c'est ce qui m'amuse d'être décalé. Mais c'est plutôt que de la déco et en tout cas pour pas que les gens déménagent.
Des excuses à présenter, Daniel. Moi.
Bien sûr, désolé pour tous nos auditeurs précaires, tous les gilets jaunes qui se sont sentis oubliés, méprisés ce matin par le multipropriétaire Nagui.
Plus quoi,
alors, comment vous dire, il a rien contre vous, les prolos, c'est juste qu'il vous connaît pas. Ah, le showbiz.
Pourquoi tu parles ?
Désolé pour les enfants de Nagui, justement, qui ont découvert qu'ils avaient été probablement achetés et élevés par un usurpateur mort à l'âge de 35 ans. Ça fait donc 35 ans, en gros. Alors, pour le coup, nous, on s'en doutait un peu. Hein. On avait quelques éléments, quelques indices. Et désolé pour tous les cons qui nous écoutent et qui ont le mauvais signe zodiacal, qui auraient aimé bosser pour Stéphane Plaza. Eh ben, pas de bol, il veut pas de vous. Ah, c'est pas grave, les gars. Ici, on a toujours de la place pour les champions.
Ça s'appelle L'amour est dans le pré, publié aux éditions Jungle. Stéphane Plaza, merci Stéphane d'avoir été notre invité. La bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même endroit, et toujours sur France Inter, avec un collègue de la maison, Thomas VDB, qui viendra nous parler de rock et de paternité. Si, les deux peuvent aller ensemble, mais tout de suite, voici les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonne journée.